Retour en direct sur le plateau d'affaires suivantes. 17 braquages, dont 16 en Belgique. Un butin minime et 28 morts entre 1982 et 1985. Affaire suivante se replonge dans le dossier des tueurs du Brabant. 3000 empreintes digitales vérifiées, des centaines d'échantillons ADN. La piste d'une tentative de déstabilisation de la Belgique par des gendarmes proches de l'extrême droite et toujours aucune condamnation. Elisa Ramin.
L'affaire obsède encore aujourd'hui certains gendarmes à la retraite. Pour eux, l'enquête n'est pas terminée. Les tueurs du Brabant sont restés impunis, malgré leurs 28 victimes et 16 braquages ultra-violents qui ont terrorisé cette région située en Belgique au début des années 80. Leur périple criminel commence dans le nord de la France. Le 14 août 1982, un agent est blessé lors du cambriolage d'une petite épicerie à Maubeuge. Les policiers français reconnaissent avoir été surpris par la violence de l'attaque.
De toute façon, non, c'est pas courant d'avoir, sur un cambriolage, d'avoir affaire à des hommes armés quand même. Si on en arrive là, c'est quand même un peu dommage.
Quelques semaines plus tard, une première victime décède lors du casse d'une armurerie en Belgique. Puis sont abattus les mois suivants le veilleur de nuit d'une auberge, un chauffeur de taxi retrouvé dans le coffre de sa voiture ou encore le patron d'un restaurant du Brabant. Des vols à main armée d'une violence inouïe pour des butins dérisoires. Après une année blanche, la bande de tueurs fous recommence à sévir à l'automne 1985 dans des hold-up sanglants de supermarchés. 16 morts, dont des enfants, parmi le personnel et les clients.
Les mêmes armes, de gros calibre, la même voiture, une Golf GTI. La même détermination meurtrière, tout porte la marque des tueurs fous du Brabant.
Une thèse a été avancée. Le gang aurait agi avec la complicité de militaires proches de l'extrême droite, dans le but de déstabiliser le gouvernement belge et d'obtenir plus de moyens pour les forces de l'ordre. Mais elle n'a jamais abouti. En 1988, un procès a eu lieu avec 6 suspects de seconde zone. Ils ont tous été acquittés. L'an dernier, le dossier a été rendu imprescriptible en raison de la gravité des faits.
Jean-Alphonse Richard, présentateur de l'heure du crime sur RTL, est toujours sur le plateau, ainsi que Gérard Chemla. Bonjour. Bonjour. Avocat pénaliste, et on va y venir. Vous connaissez l'un des deux malfaiteurs français mis en cause dans une contre-enquête extrêmement intéressante et qui fait qu'en dehors du choc qu'avait été cette affaire des tueurs du Brabant, nous en parlons aujourd'hui. On parle beaucoup d'ultra-violence aujourd'hui. On en parlait il y a quelques minutes sur le plateau du live. Quand on regarde les chiffres de ces affaires de ces 3 ans, on parle de 17 braquages et de 28 morts. On a du mal à réaliser ce que c'était.
Bah c'est vrai qu'avec nos lunettes d'aujourd'hui, ils défouraillent, comme dit le milieu, dans des épiceries pour des bulletins dérisoires. En 82, il y a 4 attaques. En 83, il y en a 10. Et puis en 85, il y en a 3, ils tuent 16 fois en 3 braquages de supermarché. Donc avec nos lunettes d'aujourd'hui, c'est parfaitement impensable. Alors il faut dire quand même que la première enquête ADN, c'est 1987 en Angleterre. Donc là, on est dans une police qui est la police d'avant de l'ADN. On est aussi dans une police où il y a très peu de caméras de vidéosurveillance. On est dans une autre police, ce qui explique peut-être l'impunité de l'époque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, 43 ans plus tard, on se demande comment la justice belge est passée à côté de ces tueries qui ressemblent à des tueries terroristes aujourd'hui.
C'est une plongée dans un autre monde, dans une autre façon de faire, Jean-Alphonse.
Ah oui, c'est effectivement. Alors, Laurent Valdiguier le dit très bien. On est dans une autre police, un autre temps. Mais il y a quelque chose, il y a un fil rouge dans cette affaire quand même, qui commence en France. Hein, faut pas l'oublier.
Oui.
Hein,
donc on ça est commence à Maubeuge.
On est à Maubeuge avec une attaque comme ça dans une épicerie. On vient voler du champagne, donc voilà, et on va tirer directement. Il y a un policier municipal, Christian Delacour, qui est blessé très très grièvement. Il va s'en sortir, mais c'est la première fois qu'on tire comme ça. À l'époque, on tire pas comme ça sur les forces de l'ordre. Et puis ensuite, ça va continuer. Ce qui est très étonnant dans cette histoire, c'est le mode opératoire qui est d'une violence inouïe. C'est-à-dire qu'il y a plein de cas où il y a des victimes totalement innocentes, qui sont là par hasard. Il y a, lors d'une attaque dans un supermarché, un couple près des pompes essence, ils sont en train de faire le plein. Le mari est tué immédiatement, sans sommation. La femme réussit à s'enfuir, elle va supplier qu'on la laisse en paix et qu'on la laisse vivante, et elle va prendre 3 balles dans la tête. Et le malfaiteur va prendre son foulard, d'ailleurs, et essuyer son sang sur ses bottes avec le foulard, puis il y a un témoin qui voit ça. Ensuite, il y a un autre policier qui va être tué. Voilà, donc ce qui est frappant, c'est ça. C'est l'ultra-violence et un déferlement qui va durer des années avec des autorités qui sont inertes. Il faut bien le dire, les enquêtes ne progressent pas.
Avant d'en venir au fond du dossier, est-ce que vous avez le sentiment qu'à... dans cette affaire-là, la violence est un but et pas un moyen? Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui avez été avocat dans des dossiers, des affaires extrêmement compliquées, est-ce que c'est une nuance qui est importante?
C'est surtout une violence inutile. Donc à partir du moment où elle est inutile, on est obligé de s'interroger. Est-ce que ce sont des gens qui ont une démarche terroriste, ou est-ce que simplement ils sont sauvages et ils prennent du plaisir dans cette façon de faire? Et ça permet tous les fantasmes ensuite. C'est aussi un élément qui va nécessairement égarer des enquêteurs, qui ne peuvent pas imaginer pour quelle raison on va tirer comme ça sur des passants.
Alors vous parliez d'égarer les enquêteurs, j'ai essayé de compiler des chiffres. Vous disiez, c'est avant les premières enquêtes ADN, mais 2748 relevés d'empreintes, plus de 40 dépouilles exhumées. Est-ce que quand on fait cela, ça veut dire qu'on cherche partout et que c'est une bonne chose, ou qu'on cherche partout et qu'en fait c'est contre-productif?
Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc à partir de là, on va taper dans tous les sens et on peut passer à côté du principal objet de la recherche sans même s'en rendre compte. Ça veut dire qu'on n'a aucune logique dans la recherche. Donc on va ratisser très large, mais très large, ça n'est jamais suffisamment large.
Oui, pas de logique et puis pas de chance non plus, parce que c'est vrai qu'ils sont sur les dents, les policiers belges, à ce moment-là. Au début, il y a un portrait robot qui est fait quand même, et puis ensuite, ils opèrent avec des masques de politiques français. Ils ont des masques de Jacques Chirac, de François Mitterrand, et puis un masque d'une personne âgée. Mais Jean-Alphonse a fait une émission l'an dernier déjà sur l'heure du crime, dans laquelle il expliquait qu'un des masques avait été retrouvé par la police française des années plus tard dans un box à Reims, et puis que s'il s'était rien passé en Belgique. Autrement dit, c'est aussi la preuve, c'est aussi l'échec de la coopération frontalière, cette enquête.
Oui, alors on se passe le bébé, à vrai dire. Parce que, je vous ai dit, le premier attentat, entre guillemets, il est en France, la première attaque. On va laisser tomber cette enquête, parce que voilà, ça, tout de suite, l'attention va se déporter vers la Belgique. Sauf que, côté belge, pardon, mais c'est très inerte, l'enquête. Alors qu'on sait qu'il y a des suspects de la première heure qui sont cités. Il y a des témoignages anonymes qui remontent. Il y a des signalements de certaines personnes qui sont connues pour dans les braquages et tout. Ces personnes-là ne sont pas interrogées tout de suite. Donc on va laisser cette affaire prospérer. Et c'est là que la question, c'est pas du complotisme, mais c'est là la question, on va se poser la question, savoir pourquoi. Pourquoi on laisse faire tout ça aussi? Parce que là, les autorités, elles sont à la peine. Et c'est compliqué. Effectivement, on a du mal à comprendre.
Alors, ils tiennent un suspect à un moment donné. Il y a un policier belge, Christian Bonkowski, un gendarme.
Tout à fait. Alors, Bonkowski, ça vient bien plus tard. Là, on est en 2015. Bonkowski, c'est un gendarme de grande taille. Parce qu'il faut savoir, c'est très important, sur ces scènes d'attaque.
On va revoir notamment le portrait robot, ce qui peut aussi faire écho à ce que vous venez de dire.
Sur ces scènes d'attaque, il y a un personnage qui va surgir. C'est un peu comme dans les bandes dessinées. Le géant. Ou le grand. Effectivement, 1m90, très costaud, il est ultra violent, c'est l'un de ceux qui tirent en priorité. Les équipes, elles sont en général formées de 2-3 agresseurs, parfois 4, mais c'est assez rare. Donc c'est des équipes assez restreintes. Et Bonkowski, il meurt, c'est son frère d'ailleurs qui va dire, il a tous les, voilà, il était surviolent, il était passionné par les histoires de nazisme, de guerre, etc. Il se peut que ça soit lui. Alors les Belges vont enquêter sur ce cadavre de Bonkowski, qui est mort de sa belle mort, Bonkowski. Et ils vont dire non, ça peut pas être lui parce qu'il y a des emplois du temps qui cadrent pas, parce que etc etc. Mais voilà, ça fait partie des pistes explorées.
Je rebondis sur ce que vous nous disiez tous les deux, des ratés dans l'enquête ou en tout cas une enquête pas assez précise et extrême droite. Parce qu'à un moment, il y a cette thèse, cette hypothèse que les auteurs de ces braquages veulent déstabiliser le régime politique belge et qu'il s'agirait de gendarmes, d'ex-gendarmes à coquiner avec l'extrême droite. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à penser cela et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on n'arrive pas à le prouver, l'un comme l'autre ?
Juste un mot, c'est un contexte historique aussi. On est dans les années 80. Politiquement, c'est très très confus et très chargé. Extrême droite, extrême gauche, deux factions qui se font face et voilà. Et il y a beaucoup de tentatives de déstabilisation d'hommes politiques en Belgique. On parle beaucoup de ça. Le royaume serait menacé par des forces occultes. Faut voir le contexte de l'époque qui est très très sombre. Et donc là, on va se poser la question de savoir si ces hommes seraient pas tout simplement les bras armés d'une déstabilisation du royaume. C'est une question qui a été posé.
Alors, il y a un gendarme, Jean-Alphonse l'a reçu dans son émission il y a un an déjà, il en a fait un livre, Jean-Pierre Adam, oui, qui, lui, est persuadé d'avoir trouvé la vérité. C'est d'ailleurs un de vos anciens clients. Il est persuadé que ce sont deux frères, les frères Slimane, deux Français, qui étaient des braqueurs ultra-violents, qui ont fait le coup.
Je voudrais moi répondre et rebondir sur cette histoire d'extrême droite. Pour moi, c'est du fantasme. C'est-à-dire que quand on comprend pas et qu'on ne trouve pas, on va chercher comme ça des culpabilités. On a fait la même chose en Belgique dans l'affaire Dutroux avec cette contre-enquête. Oui. Je crois d'ailleurs que c'est Monsieur Adam qui en est chargé avec cette enquête sur l'enquête pour retrouver des politiques, des choses bien bien sombres. Quand on aura la vérité, je me prononcerai. Pour l'instant, clairement, il n'y a pas le moindre indice de quoi que ce soit. Et en ce qui concerne les frères Slimane, ce sont des voyous ardennais qui partageaient leur vie entre Charleville et la Belgique. Il est intéressant que l'enquête arrive sur eux, mais ils sont morts tous les deux.
Ah oui, intéressant. Ben oui, il y a de demandes d'expertise ADN là aussi pour prouver. Mais qu'est-ce qui fait qu'on leur tombe dessus? Comment il arrive comme ça alors qu'a priori c'est pas la première piste?
Eh ben on leur tombe dessus, figurez-vous, au tout début, par une dénonciation anonyme. Et ça, on est dans la première affaire, on est dans le premier braquage. On va pas tenir compte de cette dénonciation. À l'époque, les frères Slimane, Thierry et Xavier, effectivement, ce sont des braqueurs reconnus. Ils font les 400 coups. Xavier, il a un profil très très particulier. C'est quelqu'un qui est très impliqué. C'est un admirateur du Troisième Reich.
Collectionneur d'armes.
Il est très violent. Il y a beaucoup de violence chez lui. Hein. C'est ça, les témoins vont le dire. Et donc voilà, on va laisser filer ces gens-là jusqu'en 2000, quand effectivement le commissaire Jean-Pierre Adam, qui est un commissaire belge, va reprendre le dossier et va se dire, tiens, c'est curieux. Il va aller à Reims où il y a le dossier des frères Slimane, qui est au tribunal de Reims, il va trouver un portrait robot dans le dossier, curieusement, dans le dossier de Fred Slimane, un portrait robot qui avait été sorti dans l'affaire des tueurs du Brabant. Et il va dire, effectivement, il y a un des frères qui lui ressemble. Puis il y a cette dénonciation, et puis il y a la trajectoire des gens, et puis il y a leur emploi du temps à un moment donné. On sait qu'à un moment donné, pendant un an, les tueurs du Brabant vont s'arrêter.
De 84.
Voilà. 84, il y a une année blanche.
Avant de reprendre, effectivement.
On disait ça pour Fournier, mais là, c'est une année blanche des hold-up. Ils sont en prison. Ils sont en prison à ce moment-là. Donc, effectivement, c'est troublant.
Ça colle ou pas, selon vous? Est-ce que vous connaissez deux, évidemment? Oui, je ne demande pas les accusés, mais...
Moi, je vais être extrêmement prudent.
Entre petit malfrat et en arriver à ce type d'acte ultra-violent et de causer la mort de 28 morts, il y a une différence qui est notable. Donc, est-ce que ça correspond à ce que... Enfin, est-ce que ça peut coller avec ce que vous connaissiez de cette espèce de dérive?
Moi, je vais dire les choses autrement. Il est normal qu'on enquête jusqu'au bout. Thierry Slimane, il a été reconnu parce qu'il a fait une émission de télé après avoir été acquitté à Charleville sur un assassinat en Belgique. C'est le dossier dans lequel nous nous sommes croisés. Il est reconnu par une des victimes. C'est logique qu'on se pose des questions et qu'on aille au bout des choses.
Dans la procédure, c'est normal.
Maintenant, être capable de... c'est à déterminer. Être coupable d'eux, c'est à prouver.
D'accord.
Et attendons donc les preuves. Il est en tous les cas salutaire de dire que 43 ans plus tard, on cherche encore.
Jean-Alphonse, je vous pose la même question. Est-ce que ça colle? Vous n'êtes pas l'avocat, donc vous pouvez y aller un peu plus.
Cette enquête, elle est officiellement prescrite. Maintenant, on arrive au bout, mais elle continue. Ouais. Ça, c'est la particularité de cette enquête. On sait que, par exemple, il y a une demande en cours d'exhumation de la maman des frères Slimane. Donc, on va pouvoir comparer, parce qu'il y a des ADN qui ont été laissés dans la voiture d'un chauffeur de taxi, sur un gilet pare-balles. Donc, on va pouvoir comparer. On verra. On n'est pas au bout de l'histoire.
Et bon, on verra dans l'affaire suivante. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau d'affaires suivantes pour évoquer là aussi un peu comme l'affaire Madi, mais un dossier qui a marqué et qui marque encore les esprits. Merci beaucoup.